Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Bonjour, vous écoutez Canal B, c'est donc l'heure de Curiosité, votre programme d'information locale qui pour sa dernière émission pousse un peu les murs. On est en direct pendant 1h30, donc jusqu'à 18h, et au sommaire, beaucoup de choses. Un billet d'au revoir, et oui, une interview avec un journaliste qui travaille pour Mediapart, un invité en studio pour parler d'une bande dessinée sur l'urgence de l'eau. Il y aura la CIMAD qui sera là aussi, un partenaire de longue date, pour parler de rétention, c'est son champ d'action. Un focus sur l'éducation aux médias, qui est un des volets d'action de la radio Canal B, de la musique, des conseils de sortie pour le week-end. On peut dire, curiosité, c'est donc parti. C'est un vendredi comme les autres aujourd'hui, alors que nous voyons avec joie le printemps s'installer, mais c'est un vendredi un peu à part pour moi. À 18h, tout à l'heure, je vais baisser le potard de mon micro sur la console qui est devant moi, relancer la diffusion automatique et refermer la porte d'une radio où j'ai travaillé pendant presque 7 ans. Pas de tristesse, il y a de la joie même. Alors Canal B, j'y suis entrée avant ça comme étudiante stagiaire en journalisme, c'était en 2013. J'étais alors tétanisée à l'idée de me retrouver le nez collé à la bonnette, ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai ensuite été bénévole, puis volontaire en service civique. J'ai donc exploré toutes les possibilités d'y rester jusqu'à signer mon premier CDI. Et si aujourd'hui je pars heureuse, c'est que je me souviens de mes peurs en arrivant dans ces locaux en tant que salarié. Du défi de se sentir légitime et puis capable de tenir le rythme, de trouver de nouvelles idées de sujets à vous apporter chaque jour. Et donc aujourd'hui, je vois que ces peurs, elles ont fini par me quitter, même si j'ai toujours un peu la voix qui tremble, peut-être que vous l'entendez au début de ce direct, je me sens comme un peu plus musclé, le dos un peu plus droit, car la radio associative m'a permis ça. Essayer, me tromper, corriger, progresser à certains endroits et puis apprendre à lâcher sur d'autres. C'est le moment où je m'excuse pour les piles de vaisselle sale sur le bureau que je partage avec Morgane Soularue, que vous entendrez tout à l'heure. En tout cas, j'ai eu la chance de quotidiennement mettre en forme les questions qui tournent dans ma tête, de m'en poser de nouvelles aussi, ça c'est les joies de ce métier, mais au moins d'en faire quelque chose de toutes ces questions. J'ai appris à aimer vous rencontrer, à vous accompagner dans l'exercice de dialoguer face à un micro. J'ai en tout cas eu l'impression de faire quelque chose d'assez important dans un monde où tout va vite et où les cris prennent beaucoup de place. Quelque chose d'important et avec une très grande liberté, je tiens à le souligner, dans le choix et le traitement de mes sujets. C'est donc aujourd'hui la dernière du programme d'information locale. On est ensemble jusqu'à 18h et on va lancer notre premier échange du jour. Alors c'est un échange qui va avoir lieu à distance avec Hugo Lemonnier qui est en train de se connecter en ligne. Hugo Lemonnier, je vous entends bien. Vous aussi, je vous présente, vous êtes journaliste indépendant et vous couvrez le procès de Joël Le Squarnec en Bretagne pour Mediapart, média d'investigation bien connu, indépendant. On est ravis de vous avoir pour un échange au début de cette émission d'information locale. On précise que vous n'êtes pas à Rennes en ce moment, même si vous faites des allers-retours dans la région. Pour rappeler les faits, on parle donc, c'est un sujet grave dont on va parler, mais il est important de l'apporter aux auditeurs, un des dossiers de pédocriminalité les plus importants jugés en France. Depuis le 24 février, Joël Le Squarnec, qui est un chirurgien à la retraite de 74 ans, est jugé pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes. Des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest de la France. Est-ce que j'ai dit le plus important, Hugo Lemonnier, ou est-ce qu'il y a des informations à ajouter sur cette affaire hors norme ?
Non, c'est très bien, c'est un très très bon résumé.
Alors Hugo, vous avez enquêté pendant 4 ans sur ce dossier avant de publier un livre au mois de février aux éditions du Nouveau Monde, Piégé dans le journal intime du docteur Le Squarnec, c'est son titre. Comment vous êtes arrivé, vous, sur le traitement de cette affaire pour y consacrer un travail aussi important ?
En fait, moi, je travaille sur des affaires de pédocriminalité depuis 2019. Et à ce moment-là, il y a un moment dans la... la carrière d'un journaliste où une source vient vous voir et vous dit il faudrait que tu t'intéresses à cette affaire parce que je pense que tu vas y trouver ton compte. Et en fait, moi, à ce moment-là, à partir de 2021, je m'étais vraiment spécialisé dans le traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles sur mineurs, avec tous les dysfonctionnements qui peuvent rentrer en ligne de compte, et puis aussi les systèmes familiaux, les systèmes incestueux qui font entrave à la parole et à la dénonciation des faits. Et donc l'affaire Le Squarneck porte en germe tout ça, puisque on a un prédateur qui est polymorphe, qui va à passer à l'acte aussi bien dans sa famille que dans son entourage, que à l'hôpital, et dans chacun de ces espaces, on voit des silences bavards, des gens qui savaient et qui n'ont pas dénoncé, et on voit des dysfonctionnements de plein d'ordres. Hein, vraiment, c'est tout qui a dysfonctionné, aussi bien la justice, la police, les services sociaux, et évidemment les autorités de santé.
Alors, ce qui a facilité grandement le travail de la justice et qui a nourri votre travail médiatique, ce sont les carnets de Joël Le Squarneck, 1656 pages au total que vous avez parcourues et qui mettent donc en évidence plusieurs choses. La criminalité assumée de cet homme et également que certains étaient au courant ces silences bavards là que vous évoquez.
Alors ouais, et puis j'ai fait plus que le parcourir puisque je l'ai vraiment analysé entièrement. Hein. J'ai tout repris et je l'ai mis dans un immense tableau pour essayer de le traiter de façon systématique parce qu'aujourd'hui, le journal intime de Joël Le Squarneck, c'est une scène de crime. Et pour en revenir à ce que vous en disiez, à savoir ces silences bavards, en effet, c'est une des pièces du puzzle parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de témoignages, hein, témoignages au sein de sa famille, de son entourage, etc. C'est une des pièces du puzzle, le journal intime, pour comprendre effectivement tout comment il a pu avoir conquérir son impunité, comment on a pu lui accorder cette impunité-là. Et on comprend que d'abord c'est une famille incestueuse, la famille de Joël Le Squarneck, une famille incestueuse, j'ai envie de dire archétypale, puisque tous ne savaient pas, mais beaucoup savaient. Tout ne se savait pas, mais beaucoup se savait, et pour autant, rien ne s'est fait. Et on comprend que les motivations de chacun, de chacune, sont très très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la mère de la nièce Alexandra, qui est la première à avoir été agressée et même violée par Joël Le Squarneck, dit-il, hein, puisque ça c'est lui seul peut le dire, mais en tout cas c'est lui qui dit que c'est la première. Et donc la mère d'Alexandra, elle surprend Joël Le Squarneck dès 1985-86 en train d'agresser sexuellement sa fille. Et en fait, cette mère, elle est à ce moment-là assaillie par les images de l'inceste qu'elle a elle-même subi. Et en fait, elle est incapable de réagir sur le moment. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a tout un tas d'exemples on comprend comment le silence, entre guillemets, le silence se crée dans une famille, et ça c'est très très intéressant puisque ça permet aussi de mettre à distance cette figure du monstre qu'on aimerait bien accoler à Joël Le Squarneck. Il faut bien comprendre que non, ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est malheureusement assez banal à bien des égards.
Je précise qu'il y a quelques jours, vous avez signé un article dans un autre média, Politis, l'inceste et l'affaire Le Squarneck, ni silence ni omerta. On peut retrouver cet article en ligne. Alors, après la sortie du livre au mois de février, depuis le début du procès, en fait, vous couvrez là ce moment qui se déroule au tribunal correctionnel de Vannes. On peut vous lire en ligne avec un dossier pour le moment de 16 articles qui va continuer à s'étoffer puisque le procès va durer en tout 4 mois. Vous racontez dans ces articles l'impossible des compte des victimes, la catharsis du procès pour ces dernières, la sincérité douteuse de l'accusé ou encore l'examen de conscience de l'ordre des médecins. Est-ce qu'il y a parmi ces sujets certains qui vous marquent plus que d'autres?
Disons que oui, il y en a deux. C'est parce que l'impossible décompte des victimes, ça renvoie à un sujet que j'ai beaucoup traité dans mon enquête, puisque à un moment dans mon enquête, je suis pas parti à la recherche des victimes oubliées de l'affaire Le Scornec. C'est-à-dire que à un moment, je me suis rendu compte que il y avait un homme que je connaissais, qui était dans le journal intime. Et je le connaissais parce que c'était le père d'une victime de Joël Le Scornec. Et cet homme, j'étais en contact avec lui parce que je l'avais interviewé, etc. Et soudain, je trouve son nom. Et là, c'est un choc terrible. Je contacte son avocate. On vérifie toutes les informations et oui, c'est bien lui. Et en fait, cet homme, donc, il avait été victime de Joël Le Scornec, anesthésié au bloc opératoire, et il ne le savait pas. Les gendarmes l'avaient repéré, mais les recherches n'avaient pas permis de remonter jusqu'à lui. Ce qui est absurde parce que bon, ils avaient tout, hein. Ils avaient son numéro de sécurité sociale. Le contact de son employeur, certes, il avait changé d'employeur, mais quand même, enfin, ils avaient vraiment toutes les informations de base qui permettent normalement de retrouver quelqu'un. Cet homme, alors je suis pas sûr qu'il ait le permis de conduire, mais en tout cas, avec un numéro de sécurité sociale, normalement, vous trouvez quelqu'un. Donc c'était assez fou quand même. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé dans une enquête un peu folle puisque j'ai repris tout le journal intime pour chercher à savoir qui avait été identifié comme victime, qui avait été recherché et qui n'avait pas été retrouvé. Ça a permis d'identifier déjà une trentaine de victimes oubliées, plus d'autres passages qui me posaient question et pour lesquels je n'avais pas de piste. Quand je dis identifier les victimes, c'est-à-dire que j'ai retrouvé leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur adresse parfois, enfin... Voilà, tout seul, pas avec mes petits moyens, ce qui est pas normal puisque la gendarmerie, elle, n'avait pas réussi à le faire. Donc là, c'était déjà assez fou. Et en fait, au fur et à mesure du procès, vous avez Joël Le Scornec qui a non seulement avoué tous les faits qui lui étaient reprochés, mais qui a pu nous dire il y a quelques jours que dès lors qu'il notait un nom dans son journal intime, dès lors qu'il évoquait un contact physique entre lui et un patient, ce n'était pas un acte médical, c'était une violence sexuelle. Et alors là, ça devient vertigineux parce que on pourrait rajouter plus de 200 noms à cette liste de victimes qui est déjà beaucoup trop longue. Et à certains égards, on peut se demander si on doit le croire sur parole puisque il y a des faits qu'il décrit qui est-ce que c'est véritablement caractérisé, etc. Et du coup, ça pose cette question vertigineuse de qu'est-ce que c'est être victime de Joël Le Scornec? Est-ce que c'est simplement être son patient? Est-ce que lui qui accole un terme à une situation et que de fait, on bascule dans une qualification d'agression sexuelle ou de viol? Là, on a un vrai questionnement de comment on rend justice dans cette affaire. Est-ce que ça vaut le coup, parfois, de contacter des personnes qui sont citées dans le journal intime pour les exposer à ces écrits qui sont quand même d'une extrême violence, à les faire rentrer dans une procédure parfois dans lesquelles elles ne voient pas, elles ne se retrouvent pas. Et ça, je trouve ça super intéressant. Il faut bien comprendre, là, par exemple, dans ce procès, qu'on a 90 personnes qui ne se sont toujours pas constituées partie civile, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à être reconnues victimes. On a que environ un tiers des personnes qui sont concernées par cette affaire qui, jusqu'à présent, ont déposé à la barre. Enfin, c'est-à-dire que sur l'ensemble des cas qui ont été examinés, une centaine, seul un tiers ont demandé à déposer à la barre. Donc, il faut bien. C'est quand même important de saisir cet enjeu-là, et c'est ce que j'essaye de comprendre aussi dans mon livre. C'est que il n'y a pas de figure de monolithique de la victime, jamais en matière de violence sexuelle, mais encore plus dans cette affaire-là. C'est-à-dire que vous pouvez être victime au regard du droit et ne pas vous considérer victime. Et ça aussi, ça, je pense que c'est un élément super important à comprendre. Et ça me fait venir au deuxième point qui, moi, m'a marqué durant ces dernières semaines, c'est effectivement la catharsis ou pas de ces victimes qui déposent à la barre, puisque vous avez des personnes qui viennent déposer. Il y a des moments d'audience qui sont absolument magnifiques, où on est transpercé par des émotions très très contradictoires, à la fois de la joie, de la tristesse. Enfin, c'est très très puissant. Et ces personnes-là, beaucoup sortent soulagées de cette audience, mais certaines, malheureusement, ça ne suffit pas à soulager leur peine et leur souffrance. Et ça aussi, je pense qu'il faut l'entendre et voilà, faire exister leur récit dans l'espace public pour que ces personnes retrouvent pleinement leur individualité.
Et donc là, c'est ce que vous faites pour Mediapart. On peut vous retrouver en ligne avec un dossier de 16 articles pour le moment. On le redit, vous êtes journaliste indépendant. Là, vous parlez d'une enquête un peu folle que vous avez menée. Ça fait 4 ans, enfin, vous avez travaillé 4 ans pour aboutir à cet ouvrage. Vous continuez à couvrir le procès qui s'étend sur un temps long de plusieurs mois. Je me demandais comment le journaliste que vous êtes vit cette expérience avec, on le comprend, des questionnements aussi sur tout ce qui est en train de se jouer là que vous évoquez.
Parfois difficilement, hein, parce que on est des êtres humains, hein, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, qui est malheureusement le lot commun de toutes les personnes qui travaillent sur les violences sexuelles, ou sur les infanticides, ou sur tous les phénomènes de violence. Et ça, ça vaut pour les journalistes, ça vaut pour les enquêteurs, les magistrats, les psychologues, les avocats, n'importe qui. Et donc, je suis suivi par un psy. Il y a eu des moments assez compliqués. C'est-à-dire que quand bien même il y a ces moments compliqués, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui me raccroche à cette humanité-là. Et c'est le plus souvent les victimes qui sont vraiment magnifiques parfois à la barre, qui sont remarquables d'intelligence, de sensibilité, qui viennent poser les choses sur le pouvoir du médecin, cette incapacité à comprendre ce qu'est la violence sexuelle quand on est enfant, mais encore plus dans un contexte médical, etc. Et ces paroles, moi, je suis juste déçu, et en même temps, bon, j'en attendais rien, que je suis un peu déçu qu'elles ne résonnent pas plus, parce qu'aujourd'hui, la couverture médiatique, elle est complètement atone. Là où c'était, on l'annonçait comme étant le procès du siècle, etc., en fait, il a été complètement phagocyté par le reste de l'actualité. Et moi, je suis très, très content, et même un peu surpris, hein, je dois bien vous l'avouer, que Mediapart continue à me prendre des articles à ce sujet, parce qu'ils auraient toutes les raisons de passer leur chemin, quoi.
C'est la dernière question que j'avais à vous poser sur la couverture médiatique du procès. J'ai jeté un coup d'œil ici en Bretagne, les médias locaux quand même relaient sur les temps forts ce qui se passe sur le procès. J'ai le sentiment qu'à l'échelle nationale, on nous avait annoncé plus de 400 journalistes accrédités, une quarantaine de médias étrangers présents. J'ai quand même le sentiment que l'écho est beaucoup moins important après le procès de Dominique Pellicot, donc sur l'affaire Mazan. Comment est-ce que vous percevez cette différence de traitement? Il y a des parallèles à établir avec des victimes qui étaient également inconscientes au moment des faits.
Alors, il y a des parallèles de ce point de vue-là. Maintenant, pour ma part, c'est pas l'enjeu majeur, la question de la médication, de l'anesthésie, de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité chimique ou de la soumission chimique. C'est pas l'enjeu majeur. Moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle. C'est-à-dire que lorsqu'on fait cette analyse du mode opératoire, comme j'ai pu le faire sur la base des données disponibles, c'est-à-dire que ça, on peut pas le faire sur l'ensemble des victimes, mais quand même sur un bon nombre. Lorsqu'on fait cette analyse du mode opératoire, on se rend compte que dans 70% des cas, en fait, la victime était consciente. Elle était réveillée. Et pour autant, beaucoup, la plupart, n'ont pas compris qu'elles étaient victimes de violences sexuelles. Donc, pour ma part, l'enjeu majeur, c'est vraiment cette question du pouvoir médical, de l'accès au corps qu'ont les médecins. Et ça, ça serait un sujet de société dont on pourrait et dont on devrait saisir. Et d'ailleurs, il y a la députée LFI, Sarah Legrain, qui a déposé une proposition de résolution pour, en vue de créer une commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le corps médical, enfin dans le secteur médical. Et c'est un véritable sujet parce que il y a une question la question de l'autorité des blouses blanches, etc., de leur accès au corps, de leur formation. Ça rejoint le MeToo hôpital. Bref, il y a un véritable champ d'investigation là. Et j'ai l'impression que la presse nationale n'a pas réussi à se saisir pleinement de cet enjeu-là, et aujourd'hui on l'a traité beaucoup sous l'angle du fait divers. Il y a eu quelques sujets sur la mémoire traumatique chez les journalistes qui ont couvert le procès. Bien entendu, il y a une conscience, tout à fait une vraie conscience, hein, chez mes confrères consoeurs de cet enjeu-là, mais je pense que leur parole a percer totalement le mur du son au sein des rédactions, et d'une certaine manière il y a pas de relais. Et le problème, c'est, on l'a vu avec l'affaire Pellicot, c'est-à-dire que si à un moment il n'y a pas de relais médiatique et de prise de conscience, bah malheureusement on n'en fait rien de ces procès-là. Donc j'ai peur que si ça ne se réveille pas, et bon, il y a quand même des phases de médiatisation qui vont venir là, parce qu'il va y avoir des auditions importantes d'ici la fin du mois d'avril, la mi-mai, etc. Si on ne s'en saisit pas pleinement, j'ai peur que cette affaire Joël Skornieck reste celle de ce grand pervers polymorphe, etc., qui écrase un peu tout, malheureusement.
Donc, on conseille aux auditeurs d'aller, s'ils le peuvent, s'abonner à Mediapart et de suivre votre travail. Oui. Un dossier donc de 16 articles à retrouver en ligne sur Mediapart.fr. Hugo Lemonnier, je leur dis, vous êtes journaliste indépendant et couvrez ce procès de Joël Le Skornieck qui se déroule en Bretagne, dans le Morbihan, pour encore plusieurs mois. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
Mais avec plaisir. Merci à vous.
On va poursuivre cette émission d'information locale, faire une pause musicale avant de parler d'un tout autre sujet, les politiques de l'eau. Mais d'abord, on va écouter un morceau de Cash Savage. Elle était en concert avec son groupe cette semaine du côté de l'Ubu. On écoute Shake from the Heart. I'm looking for an answer.
I get it, I get it.
Shake from the Heart de Cash Savage sur Canal B à l'instant, un morceau issu de l'album This Is Love qui est sorti en 2023. Cash Savage, c'est un groupe australien que je vous recommande d'écouter. La chanteuse et son groupe The Last Drinks jouaient cette semaine à Rennes le mercredi 2 avril. C'était à l'Ubu et c'était super. On poursuit l'émission d'information locale avec un invité en studio, Christian Baudu. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes documentariste, membre fondateur de l'association Les Hydrophiles et puis l'auteur de cette bande dessinée L'urgence de l'eau, c'est son titre. Les illustrations sont signées Julie Wau et c'est paru aux éditions Locus Solus fin 2024. Ça vous vient d'où l'intérêt pour l'eau? Ça a été quoi le point de départ à ce travail que vous menez, travail d'information?
Je suis né au bord de l'eau, j'ai toujours vécu au bord de l'eau. À Redon, c'est parti de l'idée que Redon, petite ville-centre, avait été assise sur un tas d'or. On a une configuration hydrogéographique à Redon qui est assez exceptionnelle, avec la Vilaine, qui est le plus long fleuve côtier de Bretagne, même s'il est modeste, dans lequel se jette l'Oust, qui est la plus grande rivière aussi de Bretagne, qui délimite la Haute-Bretagne de la Basse-Bretagne, et puis le canal de Nantes à Brest. Et suite à de nombreuses inondations, dont on a encore vécu une édition cette année en janvier, les gens ont considéré l'eau comme plutôt une fatalité, quelque chose de négatif, et nous on a toujours pensé qu'au contraire l'eau c'était une ressource qu'il fallait valoriser. Et puis aujourd'hui se sont superposées à ces convictions la question de la crise énergétique,
le changement
climatique.
Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Les Hydrophiles. Quelles sont les équipes qui font vivre ce projet et quelles sont un peu les actions phares?
L'association, elle est née dans le cadre d'une campagne municipale en 2014. Donc nous, on était une liste, on va dire, alternative. Et l'idée, c'était effectivement de créer à Redon un marqueur identitaire autour de l'eau, qu'on a appelé le Centre économique, scientifique et culturel de l'eau. Voilà, c'est à partir de là que sont nés Les Hydrophiles. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un pôle de compétences et de ressources assez variées. On a des gens qui sont dans la maîtrise, qui sont dans les sciences de l'éducation. Gérard Gruau, qui est directeur de recherche à Rennes à l'Osure. Moi, je suis documentariste, des techniciens de l'eau, des écologues, etc. Enfin, c'est assez varié. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens, le grand public, le plus possible à cette question de l'eau.
Gérard Gruau, qui est donc collaborateur scientifique sur l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, L'urgence de l'eau, c'est une bande dessinée sous forme d'enquête, un travail qui a donc été mené en équipe, Julie Wau aux illustrations, Gérard Gruau à la collaboration scientifique, qui est lui directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique et membre des Hydrophiles. À travers cet ouvrage de 127 pages, on suit deux personnages, Quentin, qui est un auteur d'un livre autour de l'eau, et Gwena, une journaliste indépendante. Comment est-ce que vous avez lancé ce projet de bande dessinée, puis pourquoi être allé vers le registre de la semi-fiction plutôt que vers une BD documentaire pure?
Alors Gérard Gruau, il est à l'origine, hein. C'est lui qui a eu l'idée le matin lors d'un petit briefing des Hydrophiles. On s'est dit, suite à la fresque de l'eau qu'il avait élaborée, ça serait bien d'en faire une BD. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit écoute, ouais, moi je m'en charge et on va travailler à partir de l'architecture effectivement de cette fresque de l'eau. L'idée c'était de faire un outil pédagogique qui soit accessible au grand public. C'est pour ça que j'ai inventé une histoire pour donner, on va dire, un côté un peu ludique à des thématiques qui par ailleurs sont assez sérieuses, puisque c'est vrai que c'est une idée qui a germé avant 2022, et puis en 2022 on a eu confirmation qu'effectivement on pourrait manquer d'eau en Bretagne, ce que beaucoup n'avaient pas imaginé jusque là
et qu'on a peut-être déjà un peu oublié depuis 2022.
On a une mémoire de poisson rouge, sans vouloir métaphoriser sur le sujet. Mais c'est vrai que, oui, il faut toujours rappeler. Cette année, beaucoup de gens ont dit, ta BD sur l'urgence de l'eau, je dis oui, mais c'est aussi une des conséquences du réchauffement climatique, puisque pour un degré de plus dans l'atmosphère, on a 7% de plus de condensation. Donc, autant d'eau disponible en moins. On court, d'après Jean Jouzel, vers les plus 4 degrés, puisqu'en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le plan politique au niveau mondial, ça veut dire 30% de la ressource en moins disponible. Donc c'est un vrai sujet, y compris en Bretagne. D'autant plus en Bretagne qu'on a, on va dire, une spécificité par rapport au reste de la France, à savoir que notre sous-sol est quasiment étanche. C'est-à-dire c'est du granit, du schiste. Donc on a des ruissellements qui sont très importants. On a peu de failles profondes qui permettent de stocker l'eau. Donc l'eau est surtout stockée et prélevée en surface. C'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire 70 à 80% de l'eau qu'on consomme, est aujourd'hui prélevée dans les rivières, dans les cours d'eau.
Donc dans la bande dessinée, Quentin et Gwenna partent dans un road trip qui les mène de la Bretagne à Orléans. On traverse plein de territoires, ça commence à Guerre-les-Dents et ça terminera à Guerre-les-Dents. Mais on croise les bords de Vilaine, Rennes, Châteaubourg, l'île de Sein aussi. C'est en fait le territoire qui est couvert par l'agence sur notre bassin de l'eau, quoi, sur notre, on dit bassin hydrographique.
Oui, bah, bassin versant, enfin oui. Alors bon... En 1964, ont été créées les agences de l'eau. Il y en a 6 en France, dont l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui va jusqu'au mont Gerbier de Jonc. Donc,
c'est un très grand territoire couvert.
Jusqu'à la pointe du Finistère. Donc, ce qui est dit malicieusement par Thierry Burlot dans la BD, c'est que peut-être on n'a pas voulu laisser aux Bretons la possibilité de gérer eux-mêmes leurs ressources, parce qu'en fait, la Bretagne est considérée comme une île. Toutes les rivières, tous les cours d'eau naissent et meurent, entre guillemets, en Bretagne, enfin, débouchent soit dans l'océan, soit dans la Manche. Donc on est vraiment responsable de la qualité de l'eau à nos estuaires. Si l'eau est dégradée à l'estuaire, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont. Donc effectivement, le bassin hydrographique breton est assez cohérent et autonome, mais par contre, on est associé au bassin de la Loire, lui qui est très dépendant aussi d'autres bassins versants. Voilà.
Le point de départ au récit qu'on explore, c'est un cauchemar pour le personnage, celui d'un territoire complètement asséché. On en a eu, vous l'avez dit, un aperçu à l'été 2022 où, on rappelle, certains agriculteurs avaient connu jusqu'à 60% de pertes sur certaines cultures. En 30 ans en France, le chiffre à retenir, c'est plus 14% de sols asséchés donc sur le territoire. Des étés plus chauds et plus secs, des hivers plus doux et plus humides. Vous l'avez dit, ce sont les deux facettes du réchauffement climatique en cours. Pour ramener ça au sujet de l'eau, ça a donc des répercussions, on le découvre d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Les deux sont étroitement liés.
Oui, enfin, c'est mécanique. C'est-à-dire que si le niveau des cours d'eau, qu'on appelle en été l'étiage, c'est-à-dire le niveau le plus bas du cours d'eau, donc est arrivé à un niveau très faible, on a une concentration d'autant plus importante en pesticides notamment, hein, en nitrates, etc., mais aussi en polluants émergents. On ne va pas tout mettre sur le dos de l'agriculture. On est responsable dans nos comportements et nos modes de consommation, évidemment, de la qualité de l'eau.
Pour ajouter un chiffre sur la pollution, on a 95% des eaux bretonnes qui sont touchées par des métabolites de pesticides, des petites molécules. Et c'est la situation est particulièrement dégradée en Ille-et-Vilaine, où on a 3% d'eau qui sont en bon état écologique aujourd'hui. Vous le dites, la responsabilité sur l'usage de l'eau douce, elle est collective. Donc la bande dessinée, elle nous emmène à la rencontre d'un grand nombre d'acteurs dans des champs très différents avec lesquels vous avez réalisé des entretiens qu'on peut retrouver dans le prolongement de la bande dessinée.
C'est ça, l'idée c'était effectivement de créer une histoire qui est une fiction entre deux personnages qui débute sur une dystopie, hein, puisqu'en fait on prend pour cadre le lac de Guerre-les-Dents asséché, et puis donc on s'aperçoit très vite qu'en fait le personnage principal, Quentin Tignac, c'est une petite malice, c'est-à-dire on peut imaginer un espèce de Tintin moderne un peu attardé, un peu goguenard et puis revenu de tout. C'est un auteur à succès qui a produit un livre qui s'appelle Un monde sans eau. Donc il se réveille lors du cocktail, il a peut-être un peu trop picolé. C'est son chien qui le réveille, et donc on sort effectivement de cette dystopie pour démarrer l'aventure où il rencontre Gwenna Talbeck. Bon, là on pourrait penser aussi à Greta Thunberg peut-être, et donc elle est une journaliste spécialisée sur les questions environnementales qui lui dit, bah, écoute, ton bouquin est un peu superficiel, bourré de clichés, et si tu veux je vais t'emmener rencontrer des personnes en Bretagne qui connaissent bien cette question-là, et tu pourras faire quelque chose d'un peu plus sourcé, documenté. Donc on est allé voir, effectivement, enfin je suis allé voir une vingtaine de personnes, d'acteurs identifiés en Bretagne autour de cette question de l'eau, donc des géographes comme Yves Le Bailly, Thierry Burlot, bien sûr président du comité de bassin, en charge de la gestion de l'agence de l'eau, et des élus comme la vice-présidente de la région aux questions environnementales, des Alexandre, aussi des responsables syndicaux,
et des associations.
NFS. Et aussi le collectif de journalistes de Splend, hein, dont Inès Leroux et Nicolas Legendre. Et puis des associations, effectivement, comme Rivières de Bretagne. Oui.
Donc,
un gros travail, un travail remarquable pour la défense de cette ressource.
On les a reçus à plusieurs reprises sur cette antenne. Donc sur la responsabilité partagée, moi ce que j'ai appris, c'est que la moitié des quantités d'eau douce prélevées, elles allaient déjà à refroidir les centrales nucléaires, j'y avais jamais pensé. 33% vont à l'eau potable et aux canaux, et 17% vers l'agriculture et l'industrie. Le tourisme et la pression démographique jouent aussi un rôle dans nos usages de l'eau qui nécessitent d'être plus sobres. Un des chiffres quand même à retenir, qui est répété plusieurs fois, c'est 125 pour le nombre de litres d'eau que nous consommons individuellement chaque jour en Bretagne. C'est déjà pas mal, et c'est sans compter l'eau virtuelle. On peut rapidement en revenir sur ce concept.
Oui, alors déjà, entre eau consommée et eau prélevée, il faut faire un distinguo, c'est-à-dire que l'eau prélevée, c'est ce que prélèvent effectivement les centrales thermiques en France, hein, dont nucléaire. C'est à peu près la moitié de l'eau qui est prélevée, mais elle retourne au milieu. Alors des fois plus 3 degrés, voire plus 4 degrés, donc c'est pas sans incidence. Puis on a vu récemment qu'il y avait aussi d'autres petites choses un peu bizarres dedans, là, comme le tritium. Mais globalement, c'est l'eau qui retourne au milieu très rapidement. Voilà, ça, l'eau que vous prenez pour votre douche ou pour boire aussi, hein, pour être très, très trivial, ben, elle repart très très vite effectivement au milieu. Par contre, l'eau qui est consommée, c'est essentiellement l'agriculture. Parce qu'en fait, c'est de l'eau pour arroser, c'est de l'eau consommée pour l'abreuvement des cheptels, du bétail. Donc c'est de l'eau qui reste et qui ne retourne pas directement au milieu. Donc voilà, ça c'est le premier distinguo. Alors entre l'eau effectivement qu'on consomme en Bretagne, on est un petit peu en dessous de la moyenne nationale à 127 litres, puisque la moyenne nationale, on dit, c'est 149 litres, bon, aux alentours de 150 litres. Il faut savoir que sur les îles comme l'île de Sein, puisque j'en parle dans la BD, on est beaucoup, beaucoup plus économe en eau. On est plutôt aux alentours de 40 ou 50 litres, hein, parce que les gens connaissent bien la raréfaction de la ressource, donc ils font beaucoup plus attention. On consomme effectivement en Bretagne autour de 125 litres, c'est plutôt en augmentation malheureusement, alors qu'il faudrait plutôt aller dans l'autre sens, puisqu'en fait l'INSEE nous annonce qu'à horizon 2040, on risque d'avoir 400 000 habitants de plus en Bretagne, donc on imperméabilise les sols, même avec la loi zéro artificialisation nette, qui a du mal d'ailleurs à voir le jour, on imperméabilise toujours plus les surfaces, donc ça va poser le problème effectivement de l'alimentation en eau de toutes ces nouvelles personnes qui arrivent. La Bretagne vit une attractivité quand même assez forte, et l'équivalent qu'il faudrait imaginer en quantité d'eau pour nourrir, pour répondre aux besoins de ces nouveaux arrivants, c'est l'équivalent du lac de Guerlédan, c'est-à-dire 50 millions de mètres cubes. Or, refaire le lac de Guerlédan aujourd'hui, ça serait complètement inconcevable pour des raisons notamment écologiques et autres. Donc effectivement, on consomme cette eau-là, et puis on consomme aussi de l'eau qui vient...
à travers nos vêtements, nos jeans.
À travers nos vêtements, tout ce qu'on peut acheter en produits dérivés, etc. Ou ne serait-ce que le bœuf brésilien, ou je ne sais pas d'où il vient, en tout cas, il n'est pas seulement français, ou le poulet brésilien. Il faut aussi nourrir et abreuver ces... Voilà. On dit que produire un kilo de bœuf, il faut environ 15 000 litres. Alors, bon, c'est un petit peu abusif, on va dire que c'est à gros traits, quoi, parce que c'est pas toujours le cas, notamment si on privilégie l'élevage en prairie, c'est complètement différent, ce sont pas les mêmes chiffres. Là, on parle vraiment de l'élevage qu'on appelle en stabulation, c'est-à-dire des bêtes qui restent à l'étable, quoi, voilà.
On commence à parler un peu du coup agriculture. Donc il y a donc des particularités sur notre territoire qui nous rendent particulièrement fragiles sur la question de l'eau. Les particularités géologiques, on les a déjà évoquées. L'attractivité démographique aussi, qui implique de grands besoins en eau. Et ce modèle agricole développé depuis les années 50 et qui est aussi évoqué à plusieurs reprises dans la bande dessinée. Pas le seul responsable, mais un des responsables.
C'est un responsable important, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que je suis allé voir à la fois des responsables de la Chambre régionale d'agriculture, donc, dont le syndicat dominant c'est la FNSEA, et puis aussi une secrétaire de la Confédération paysanne pour mettre en face à face deux points de vue différents, mais qui pourraient s'accorder. Je pense que la BD, elle n'est pas là pour créer des polémiques, mais plutôt essayer de créer des ponts sur des thématiques qui nous concernent tous. Parce que le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est éminemment politique. Alors effectivement, actuellement, le modèle polyculture-élevage en Bretagne est de plus en plus productiviste, c'est-à-dire avec de l'agriculture intensive, industrielle, alors qu'il faudrait au contraire développer une diversité des cultures et varier énormément, enfin, et s'adapter surtout aux différents territoires. Parce qu'en Bretagne, on avait un maillage polycentrique urbain, c'est-à-dire un maillage de petites villes-centres, comme Redon en est une. fortune d'ailleurs, on va dire plus Hermel, Carré, etc., Rostrona. Et puis c'était des choix politiques qui se sont faits aussi à la suite de la Révolution. On a privilégié la métropolisation. Et donc le problème de la métropolisation, dans des zones comme en Bretagne, on n'a pas des ressources disponibles comme on peut avoir en Normandie ou dans le bassin parisien, c'est qu'on est obligé de créer des interconnexions. Donc aujourd'hui, l'eau qu'on boit à Rennes, par exemple, elle vient de la Roche-Bernard ou du bassin de la Haute-Rance. Et on avait ce maillage polycentrique parce qu'avant, les anciens avaient bien compris que la disponibilité de la ressource, elle permettait d'accueillir un certain nombre d'habitants et pas plus, quoi, voilà. Et il faudrait peut-être revenir, c'est un petit peu aussi un des messages de la BD, vers une conscience de notre ressource, à nous reconnecter à notre environnement et puis mettre un peu plus de raison dans tout ça, quoi, et abandonner le dogme du productivisme à tout craint.
On arrive aux solutions. Donc l'urgence de l'eau, c'est une BD à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Beaucoup de chiffres à découvrir dans cet ouvrage et de nombreuses voix qui se succèdent. Vous avez cité Jean Jouzel, donc un ancien du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Il signe aussi la préface de l'ouvrage. Thierry Burlot, on l'a cité, du comité
de bassin. Loire-Bretagne, oui.
Loire-Bretagne.
Président du comité de bassin Loire-Bretagne.
Lui, il en donne des pistes de solutions face à la situation qu'on vient donc de décrire, à commencer avec la transition agroécologique qui doit s'intensifier, être mieux accompagnée dans cette région où on est, qui compte un cheptel de 90 millions d'animaux. C'est énorme.
Oui, en quantité de déjections animales, c'est l'équivalent de 120 millions d'habitants en Bretagne. C'est-à-dire à peu près 30 fois la population actuelle. Donc c'est assez énorme. Donc il faut aussi penser à abreuvement et compagnie. Ça concerne que le cheptel existant reproducteur. Ça veut pas, donc il y a aussi toute la production animale. Donc on pourrait presque multiplier par deux ce chiffre. Donc c'est énorme. Effectivement, ça exerce une pression. Ben, on l'a vu avec le problème des algues vertes. D'ailleurs, je salue encore une fois Eaux et Rivières de Bretagne pour le travail qu'ils font de sensibilisation, puisque l'État vient d'être condamné. Enfin, il y a une injonction au
préfet agir plus.
Agir sous 4 mois ou 6 mois, je ne sais plus. Mais bon, c'est un problème qui est compliqué, hein, de toute façon, puisque c'est de longue date. Et bon, pour revenir en arrière, c'est toujours très très compliqué. Hein. On freine pas comme ça un ferry qui est lancé à toute vitesse vers un quai.
Donc là, on a parlé agriculture, on rencontre aussi une entreprise, en l'occurrence, qui parle de ce qu'elle met en place pour essayer de réduire son usage de l'eau. Dire que la moitié des entreprises ont baissé ou stabilisé leur prélèvement d'eau dans les 5 dernières années. Plus largement, dans un passage de l'ouvrage où les cours d'eau sont personnifiés et prennent carrément la tribune, il est question d'une révolution des consciences. L'idée, c'est quand même que notre accès à l'eau est tellement simple aujourd'hui d'ouvrir un robinet qu'on en oublie sa préciosité, sa valeur.
Oui, je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas en fait le petit cycle de l'eau. Peu de gens en fait se posent la question de savoir quand ils tournent le robinet, savoir d'où vient l'eau effectivement, et moi c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Avec les interconnexions, on a aujourd'hui des facilités. Il était même question de vendre l'eau du Rhône à Barcelone à un moment, hein. Le projet a été abandonné, mais il peut tout à fait refaire surface. Donc on se dit aujourd'hui, il y a eu 12 000 captages qui ont été fermés en France depuis une vingtaine d'années, sur les 36 000 ou 38 000 existants, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des captages où on ne peut plus prélever de l'eau parce qu'il y a trop de pesticides ou trop de nitrates ou tout simplement les Escherichia coli, hein, comme on l'a vu sur la porcherie de Lindunvest dans le Finistère. Alors en plus, avec des extensions de porcherie qui sont validées par le préfet, malgré des décisions du tribunal administratif, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a une volonté politique de satisfaire, on va dire, le lobby porcin, hein, il faut l'appeler comme il est, au détriment en fait de la qualité de l'eau, et donc faire payer par la population, les pollutions, c'est-à-dire qu'en France, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué encore aujourd'hui, ou en tout cas pas suffisamment, loin de là.
D'autres solutions, on peut en trouver plein dans l'ouvrage « L'urgence de l'eau ». Il y est question de politique démocratique de partage de l'eau, de l'importance aussi des travaux à continuer à mener pour réduire les fuites et puis réparer les milieux qui sont endommagés. Et on le redit, il y a toute une série d'entretiens menés avec les personnages réels qu'on croise dans l'ouvrage qui sont à retrouver sur une chaîne YouTube du même nom. On a quelques rendez-vous à annoncer dans le prolongement de la parution de l'ouvrage en fin d'année dernière qui arrive, on les annonce.
Oui, bah on a tout d'abord, moi je vais citer Redon, hein, j'ai normal. Donc il y a les Mystériales, qui est un festival littéraire qui se passe à Redon les 17 et 18 mai, où je suis invité. Les Hydrophiles organisent avec un collectif d'associations le 24 mai un festival qui s'appelle Haut la Vilaine, c'est la deuxième année. Et donc des associations qui sont investies dans la protection du patrimoine fluvial. Il y aura une table ronde avec Thierry Burlot notamment, et Samuel Bonvoisin, qui est un spécialiste de l'hydrologie régénérative. On va poser la question, il y aura peut-être Jean-François Marie, président de Redon Agglomération, et il y aura Gérard Gruau, bien sûr, il y aura quelqu'un de d'Eau et Rivière. C'est une table ronde pour évoquer justement les questions de l'aménagement du territoire et ses conséquences sur notamment le ruissellement de l'eau. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi l'urbanisation et la pression touristique. Et puis un autre rendez-vous, parce qu'on est un peu sollicité, et tant mieux, à Rochefort-en-Terre, le festival Imaginons 14 et 15 juin.
Les dates sont notées dans les agendas des auditeurs. On redonne le titre de l'ouvrage « L'urgence de l'eau, enquête à la source ». Un ouvrage que vous avez signé, Christian Baudu. Les illustrations ont été réalisées par Julie Wau et c'est paru...
Une dessinatrice rennaise.
Une dessinatrice locale rennaise. C'est paru aux éditions Locus Solus en fin d'année dernière. Et donc Christian Baudu, vous êtes documentariste, membre fondateur de cette association Les Hydrophiles et l'auteur de la bande dessinée qu'on vient de présenter et qu'on peut retrouver avec des prolongements sur une chaîne YouTube. Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit. Tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque. Exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque, de quack en quack, d'échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break. N'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek, le monde. faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, 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 tout petit, tout petit, petit. Tout petit, 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 tout petit, tout petit, petit, faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit, tout petit, petit, petit.
Tout petit, 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 c'était Bertrand Belin et N de Liminianas avec ce morceau peut-être un brin ironique. J'adore le monde, c'est pas facile en ce moment. Hein. Un titre tiré de l'album Faded qui est sorti le 21 février sur le label Beretto Music. On retrouve les Liminianas en concert samedi, last weekend, dans le cadre du festival Mythos. Mais c'est complet, vous arrivez trop tard. Moi aussi, je voulais y aller, je n'ai pas eu ma place. Mais pour les Morbihanais, tiens, il y a une date le 13 juin du côté de l'Econova à Saint-Avé, si jamais vous êtes dans le coin. En studio avec nous, on poursuit l'émission d'information locale, la dernière, je vous le rappelle, avec une association amie de Canal B, c'est la CIMAD, Association de soutien aux personnes exilées. Bonjour Colline.
Bonjour.
Vous venez régulièrement à l'antenne partager des chroniques sur la rétention, donner aussi à entendre les voix des personnes retenues avec des lectures de témoignages. Là, on se retrouve juste avant la parution d'un rapport national qui revient tous les ans sur la rétention, un document assez conséquent qui permet de raconter ce qu'il se passe dans ces lieux de privation de liberté. Donc on fait un peu de teasing, quand est-ce que les auditeurs vont pouvoir aller le découvrir en ligne?
Donc là, le prochain rapport sort fin avril, le 29 avril, et en fait c'est un rapport qui fait environ 150 pages et qui est coécrit avec toutes les associations qui interviennent en centre de rétention administrative. Donc il y a la CIMAD, France Terre d'Asile, l'ASFAM, Forum Réfugiés et aussi Solidarité Mayotte, qui intervient du coup au CRA de Mayotte. Donc voilà, donc là il sort fin avril, encore quelques semaines à patienter avant de pouvoir le retrouver en ligne.
C'est quand même une mine d'or parce qu'on retrouve donc des focus sur les différents centres de rétention français, donc avec une mise en lumière de ce qui se passe ici à Rennes, et on y découvre des données très techniques sur comment les personnes ont été interpellées, combien sont venues au centre de rétention, qu'est-ce qu'il est advenu pour elles, etc. quoi.
Oui, exactement. En fait, à chaque fois, le rapport, il y a un focus en particulier. En 2023, c'était sur l'enfermement des personnes malades. Là, en 2024, je ne le dirai pas, vous pourrez aller
on garde
voir...
le suspense.
Exactement. Et en fait, après, chaque association écrit la partie sur les CRA où elle intervient. Donc, on retrouve vraiment tous les CRA de métropole et aussi d'outre-mer. Et donc, du coup, il y aura bien sûr une page, une double page sur le CRA de Rennes. Et donc, voilà, c'est l'occasion de mettre un peu en lumière ce qui s'y passe, de donner aussi la parole aux personnes enfermées, parce qu'on regroupe aussi des témoignages. Donc voilà, c'est vraiment une source d'information pour contrer un peu ce qu'on entend dans la sphère politique en ce moment. Voilà.
On va y revenir. On vous retrouve donc en ligne sur le site internet de la CIMAD. Je pense que de nombreux citoyens et citoyennes ne connaissent encore pas aujourd'hui l'existence de ces centres. Celui de Rennes, il est à deux pas de l'aéroport Saint-Jacques de la Lande. On peut peut-être présenter les lieux, c'est très proche de l'univers carcéral.
Oui, ah bah totalement. Hein. C'est un CRA, c'est vraiment une prison qui ne dit pas son nom. Encore plus maintenant. Donc oui, le CRA de Rennes est juste à côté de l'aéroport. Il y a une capacité maximale de 56 places. C'est que des hommes qui sont enfermés depuis 2023. Il y avait des places avant qui étaient prévues pour les femmes et les familles. Mais il n'y a plus de femmes enfermées depuis 2023. Et avec la nouvelle loi de l'année dernière, de janvier 2024, il ne peut plus y avoir non plus de mineurs. Et enfin d'enfants enfermés en CRA sauf à Mayotte, et donc du coup il n'y a plus de place famille, donc maintenant on n'a que des hommes qui sont enfermés au CRA. Et c'est vraiment une prison qui ne dit pas son nom, d'autant plus que là, il y a eu des importants travaux au CRA de Rennes. Donc, il a totalement fermé pendant un mois en mars 2024. Il a réouvert progressivement au mois d'avril l'année dernière. Et donc, maintenant, c'est vraiment... comme une prison, les personnes sont enfermées quotidiennement dans leur bâtiment, elles ont peu d'accès à la cour extérieure, seulement au moment des repas, le midi et le soir, et seulement quand il y a le ménage dans leur bâtiment. Donc ça veut dire qu'elles sortent une demi-heure l'après-midi, et beaucoup de personnes retenues nous disent justement que c'est même pire que la prison, finalement.
on le redit, alors ça change tous les ans, il y a des personnes de plein de nationalités, mais sur le dernier rapport, les trois nationalités les plus représentées, c'était l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et les personnes peuvent rester jusqu'à 90 jours, donc enfermées dans ce lieu. Colline, toi tu es intervenante juridique en centre de rétention administrative pour une association, la CIMAD. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton quotidien et celui de tes deux autres collègues?
Oui, bah du coup, nous, on est trois à intervenir au CRA de Rennes. On intervient du lundi au vendredi. On a vraiment une mission d'accès et d'information aux droits pour les personnes qui y sont retenues, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment des procédures qui sont très compliquées. Il y a beaucoup de différents délais en fonction de la mesure qu'on a reçue, etc. C'est pas les mêmes juges. Donc nous, on est vraiment là pour leur expliquer la procédure, faire de l'accompagnement juridique. Donc on rédige aussi les recours, on envoie les recours aux juges. On a aussi beaucoup de liens avec les avocats du barreau de Rennes. On est en contact régulier avec eux. Comme ça, au moins, les personnes... ont un suivi régulier. Quand elles arrivent au CRA, elles ne sont pas perdues. Elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, qu'on est de leur côté. Et voilà, même si on a de moins en moins de leviers, malheureusement, au niveau juridique, on continue à se battre. Ce n'est pas facile, c'est vraiment une bataille au quotidien. On arrive encore à avoir quelques décisions positives, donc ça nous fait plaisir, ça nous fait croire un peu...
votre combat.
On se dit que c'est encore possible. Donc on est vraiment au quotidien, quoi, au CRA.
En plus de défendre le droit de ces personnes, il y a aussi une rupture un peu de l'isolement, on le comprend, et c'est aussi ce que font des bénévoles pour la CIMAD qui, eux, vont en visite. Comment ça se passe, la mise en contact, quoi?
Oui, tout à fait. En fait, on travaille avec des bénévoles de la CIMAD, donc du groupe local de Rennes. Et en fait, on travaille avec eux sur des événements de sensibilisation. Donc, il y a des expositions photos, des événements dans des écoles pour parler aussi de la rétention administrative. Et en plus, ils viennent rendre visite aux personnes au centre de rétention. Donc, en fait, c'est un travail conjoint avec nous. On leur fait parvenir les noms des personnes qui souhaitent recevoir des visites. Il y a aussi des cabines téléphoniques au CRA, donc si besoin, les bénévoles ou toute autre personne de la société civile peut appeler pour savoir qui veut recevoir des visites. C'est différent de la prison, c'est pas sous forme de parloir, il n'y a pas de rendez-vous à prendre, on peut vraiment aller rendre visite au quotidien, la journée. Donc ça permet vraiment aux personnes isolées, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la région de Bretagne, mais aussi des personnes qui viennent de partout en France, donc qui n'ont pas forcément leur famille à côté, leurs proches. Donc au moins recevoir un peu de visite, ça fait du bien, ça permet d'avoir un peu de lien, de sortir de son bâtiment aussi, d'avoir un petit lien avec l'extérieur. Donc c'est vraiment précieux pour les personnes retenues.
Un mot enfin sur le contexte. Le durcissement des politiques migratoires, il se poursuit, lancé maintenant depuis de nombreuses années. Vos actions associatives, elles ont récemment été remises en cause par le ministre de l'Intérieur lui-même, Bruno Retailleau. Et l'association, donc la CIMAD, vient même d'arrêter ses actions dans le centre de rétention du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne, l'un ou le plus grand centre de rétention de France. Est-ce que tu dirais que ça devient difficile pour vous de poursuivre vos missions? Enfin, faut s'accrocher.
Faut s'accrocher. C'est de plus en plus difficile et surtout avec le gouvernement en ce moment, on sent vraiment que Bruno Retailleau, la rétention administrative, c'est son cheval de bataille. Il en parle au quotidien et donc il y a constamment des nouvelles lois, des nouvelles propositions de loi. Là encore, il y a une proposition de loi en février 2025 qui a été adoptée par le Sénat le 18 mars dernier sur l'allongement de la durée en rétention administrative. Donc ils veulent faire passer ils veulent prolonger la durée, qu'elle passe à 210 jours. Donc on est à 90 jours aujourd'hui, ils veulent la passer à 210 jours, c'est énorme, sachant que c'est pas parce qu'on enferme plus longtemps qu'il y aura plus d'expulsions. Nous, on a pu démontrer justement dans des précédents rapports qu'il n'y a aucune corrélation entre rester plus longtemps en rétention et être expulsé. Souvent, les expulsions, elles ont lieu au début.
Et le taux d'éloignement, il doit être de 70%, je crois.
C'est un peu moins. J'ai pas les chiffres en tête, mais...
On verra ça dans le rapport à venir.
Exactement. Mais donc, c'est vraiment de plus en plus difficile et on sent là que... Les ministres de l'Intérieur et même le gouvernement en général, ils veulent se débarrasser un peu des associations. On dérange parce qu'on essaye de faire sortir les voix des personnes enfermées, de témoigner de ce qui se passe, d'amener un discours sur la scène publique contradictoire forcément aux politiques actuelles. Donc voilà, il y a un nouveau projet de loi là, qui est en train d'être, enfin qui va être examiné au Sénat au mois de mai. Ils veulent notamment donner les missions d'accès aux droits à l'OFI. Donc,
l'Office français de l'immigration.
Exactement, et l'intégration, c'est un organisme de l'État. Donc en fait, ils veulent donner les missions des associations à l'OFI pour se débarrasser finalement de nous dans les CRA. Donc voilà, affaire à suivre, mais c'est vraiment un combat au quotidien.
Pour continuer à vous suivre, il y a donc un site internet et je précise que toutes les chroniques que vous avez réalisées, qui ont été diffusées sur Canal B depuis plusieurs années maintenant, on les retrouve en ligne sur une page SoundCloud. Merci beaucoup, Colline.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Canal B
en FM en Ille-et-Vilaine sur le 94
et partout dans le monde sur canalb.fr.
Vous êtes toujours sur Canal B avec les élèves du club presse du collège François Truffaut, From Béton, et c'est l'heure de notre débat. Rappelez-vous, on a décidé de parler de l'euthanasie.
Oui, en effet, pas très drôle comme sujet, mais important et nécessaire. Alors nous, Ewen et Lucille, on a fait un tas de recherches et on doit vous donner quelques informations essentielles avant de lancer le débat avec nos copains.
D'abord, le mot euthanasie vient du grec euthanasia, qui signifie « bonne mort ». La définition du Larousse est celle-ci. Acte d'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie.
Côté législation, on distingue deux types d'euthanasie, l'aide active à mourir ou euthanasie active et le principe de laisser mourir ou euthanasie passive. En France, seule l'euthanasie passive est autorisée sous certaines conditions définies par la loi Leonetti de 2005. L'euthanasie active n'est autorisée qu'en Belgique, en Suisse, au Portugal, au Canada, en Espagne, en Colombie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et dans certains États des États-Unis.
Morgane Soularue, bonjour.
Bonjour Lucille Wapre. Bon, j'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là
ouais. Du micro. Morgane, nous sommes collègues à Canal B, donc on va se tutoyer.
Si tu veux.
Tu es en charge de l'éducation aux médias dans cette radio et on vient d'entendre l'extrait d'un des ateliers, le dernier atelier radiophonique qui a été diffusé à l'antenne sur Canal B. C'était quoi ce projet ?
C'était le club presse du collège François Truffaut à Béton qui avec leur professeur documentaliste avait envie de faire de la radio, ils font déjà de la presse écrite. Donc je suis allée les rencontrer, on a fait plusieurs ateliers et ils ont choisi de faire un débat sur l'euthanasie et donc c'était la présentation de cette partie de l'émission, le débat.
Donc ça a été diffusé le 8 mars et on peut retrouver cette émission en ligne. Il y est question de plein d'autres sujets, ça va des chats forestiers aux plantes médicinales avec des sujets donc plus lourds qui ont été choisis par les élèves accompagnés donc par leurs professeurs documentalistes. Là on a entendu des collégiens mais tu travailles avec différents niveaux et même avec d'autres publics que les scolaires.
Ouais, c'est essentiellement au collège lycée mais effectivement moi je peux être amenée à travailler avec des étudiants, hein, avec le master journalisme de Sciences Po qui, quand ils sont en master 2, réalisent une série documentaire qui est produite et diffusée sur Canal B. Le niveau, ça va de la 6e à la terminale, alors peu de terminale quand même, ça va de la 6e à la 1ère. Après, je suis amenée à travailler aussi avec les MJC, avec les structures socio-éducatives, socio-culturelles. Voilà, là aujourd'hui, c'était avec le service jeunesse et sport où je recevais des animateurs, animatrices d'Ille-et-Vilaine.
Les apprenants, ils ont tous en commun avec toi de découvrir le paysage médiatique français, la radio, souvent avec l'expérience du passage au micro. Par contre, le fond des émissions, il est un peu lui à la carte selon les projets, le cadre dans lequel ils s'inscrivent et ça leur permet donc d'explorer des questions qui les intéressent. C'est aussi l'intérêt.
Oui, alors soit c'est les porteurs, porteuses de projets, les enseignants, enseignantes qui choisissent par rapport au programme scolaire, à un thème qu'ils ont envie d'aborder, souvent l'égalité filles-garçons, pourquoi pas aussi l'écologie, le changement climatique. Et puis on leur laisse cette possibilité parfois de choisir les sujets et on est... Alors je vais dire que je suis toujours surprise, mais finalement je devrais plus l'être, par la qualité des choix des sujets, par le sérieux des sujets choisis. Là on est quand même avec des élèves qui en moyenne étaient en 5e et ont choisi l'euthanasie. Voilà, il y a eu la culture du viol pour une classe de troisième l'année dernière à Fougères. Après, sur les sujets choisis par les porteurs de projets, l'un des projets qui a été réalisé cet automne, c'était au lycée Mendès France. Et là, c'était la classe Goncourt, enfin la classe journal du prix Goncourt des lycéens, lycéennes. Donc, le sujet était tout imposé. Ça varie.
L'éducation média, c'est un champ d'action, je ne sais pas si les auditeurs en ont entendu parler, mais qui s'est développé il y a 10 ans maintenant, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. Depuis, soutenu politiquement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des animateurs et des journalistes interviennent donc en partie avec le jeune public pour les initier au fonctionnement médiatique en France. Quel sens, toi, tu donnes à ton travail et qu'est-ce que tu vois que ça produit chez les apprenants apprenantes ?
Alors moi, je donne un sens qui est lié au métier qui est le mien, c'est-à-dire journaliste, parce que l'éducation aux médias peut aussi, notamment dans les radios associatives, être réalisée par des éducateurs qui viennent de l'éducation populaire. Moi, le sens que je lui donne, il était très lié à cette désaffection du public pour la presse, l'information. Je me posais beaucoup de questions. On avait créé une émission ici qui s'appelait Retour aux sources, où on interrogeait les pratiques journalistiques, où on s'interrogeait là-dessus, on remettait un peu en question certaines pratiques journalistiques. Et j'ai réalisé qu'avec les ateliers, je pouvais amener les gens, en tout cas les élèves, à comprendre comment fonctionne la presse en France, c'est-à-dire mal, pardon, les radios associatives à peu près, comment on fait de l'info. C'est important, moi je suis convaincue que c'est par le faire qu'on apprend. Décortiquer tout ça, comprendre que c'est un vrai métier qui demande de la déontologie, de la vérification. Et voilà que le fond du truc, c'est de dire plus. Enfin, vous avez le droit d'être informé, vous avez le droit, on a le droit de vous informer et ça fait la base d'une bonne démocratie puisque vous allez être éclairé. Donc, vous allez pouvoir voter, consommer de façon consciente, ne pas aller chercher vos vêtements chez telle marque ou ne pas voter pour tel candidat parce que vous aurez lu des articles de presse, vous aurez écouté des émissions de radio. Et ça, c'est primordial, il me semble.
Même si c'est pas la première étape, il y a donc souvent un passage au micro. Il y a donc aussi, on imagine, l'intérêt d'apprendre à exprimer une voix en tant que citoyen avec un public souvent jeune, aussi avec un public de personnes qui est en train d'apprendre le français. Donc il y a vraiment quelque chose qui joue dans le fait d'oser prendre la parole.
Oui, et ça, je vais dire un truc bizarre, mais enfin, en tout cas pour moi, la réforme du bac, le bac Blanquer, pour lequel j'étais pas trop, enfin voilà, j'étais pas trop pour, a finalement renforcé l'oral, la prise de parole, et donc de pouvoir faire de l'éducation en médias avec la radio, ça permet aux élèves de prendre la parole, et apprentissage de la forme. C'est-à-dire qu'il y a le fond, certes, mais il y a la forme aussi. Comment on prend la parole, comment on articule, où est-ce qu'on met ses virgules. Et les élèves aujourd'hui ne mettent plus de ponctuation, donc il y a un retour au basique. Et puis ici à Canal B, et moi je suis très attachée à cela, c'est de donner la parole à tout le monde, même ceux qui ont des défauts de prononciation ou effectivement ceux qui apprennent le français, qui ont de très forts accents, qui butent sur les mots. C'est ce que permettent les radios associatives et moi je trouve ça fondamental.
Tes ateliers radiophoniques sont diffusés le samedi matin à 10h. J'ai bon.
Ouais, et rediffusés le mercredi à 15h quand il y a des ateliers, c'est irrégulier, puis après il y a des grosses périodes où il y en a tous les samedis. Ouais.
On peut aussi les retrouver en podcast sur le site internet canalb.fr dans une catégorie dédiée. Tu as choisi un morceau de musique, Morgane, en lien avec un autre de tes engagements à Canal B, là dans le champ des luttes féministes.
Oui, parce que moi je suis arrivée à Canal B il y a 10 ans pour co-créer, parce que j'étais loin d'être toute seule. Il y avait Marine Combe, il y avait Lydie Poré, il y avait Patricia Godard, pardon, Violaine Poubagne, une émission féministe qui existe toujours, qui s'appelle aujourd'hui Les Héroïnes. Donc effectivement, j'ai choisi un morceau en lien avec ce sujet qui me tient très très à cœur, mais qui vous tient à cœur aussi, Lucie, je le sais. Qui te tient à cœur, on avait dit qu'on se tutoyait. juste avant que vous ne lanciez que tu lances la diffusion, tu vois, j'ai
double personnalité.
Ouais, là, c'est très bizarre comme exercice. Avant que tu lances la diffusion, j'ai droit à 20 secondes, même pas 10 secondes.
Oui.
Je l'ai écrit parce que je me disais, je vais être incapable de parler sans avoir une anti-sèche. Je voulais simplement te dire merci, Lucie, merci pour ces 7 années passées. Je savais que je serais émue hein. Face à toi. Merci d'avoir été cette collègue dont tout le monde rêve. On s'est bien marré. On a aussi poussé des gueulantes en faisant nos revues de presse quotidiennes. On a fait de nombreux éditos, notamment féministes. C'était vraiment chouette de travailler avec toi. Je voulais aussi te dire bravo, Lucie. Bravo pour la qualité de ton travail. Tu es une très grande journaliste, Lucie. Je te cache pas que je vais être bien perdue et bien triste lundi matin et que je vais sans doute tourner autour de ton bureau vide comme une âme en peine. Merci, Lucie.
Répétant Not All Men. Il était à peine minuit pile, il s'échangeait en crocodile, pleurant d'être persécuté par des folles et des mal baisés. Il m'a dit le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Prenons du recul un instant, ici on n'est pas en Iran. Si les femmes sont pas au pouvoir, c'est que depuis la préhistoire, on sait qu'elles n'ont pas les épaules et c'est pas grave, chacun son rôle. Il chouinait, on ne peut plus rien dire. Déconstruire, ça veut dire détruire. Je n'en peux plus de cette maladie. Partout, il y a des féminazis. Le féminisme, et c'est ma crêle. Il nous pleut dénué de sauterelles. Maman toute seule, jamais putain. C'est comme un châtiment divin. Il m'a dit le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Prenons du recul un instant. Ici, c'est pas l'Afghanistan. Si les femmes sont pas au pouvoir, c'est que depuis la préhistoire, porte mal la pression, mais sans douer pour tenir une maison.
Ça n'existe pas.
Delhomme à l'instant sur Canal B, qui n'est donc pas qu'autrice, qui est aussi chanteuse, musicienne, et qu'on vient d'entendre avec le titre « Ouin Ouin Boogie » sur Canal B, un titre qui est sorti en 2024 au sein d'un album intitulé « Sentiments négatifs ». Après Morgane qu'on vient d'entendre sur l'éducation aux médias, et donc un focus sur une des activités qui nous tient à cœur à Canal B, place à un reportage. Depuis le début de l'émission, on a évoqué plusieurs luttes pour un monde plus juste et plus durable. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour les droits des personnes exilées, lutte environnementale aussi avec le sujet de l'eau. Et on va rester dans ce champ au premier degré avec un reportage qui a été réalisé jeudi sur le site de la ferme du Turfu. C'est une ferme coopérative à la Prévalais qui vit en ce moment sa première saison. L'idée avec ce projet, c'est de s'appuyer sur l'engagement de coopérateurs et coopératrices qui achètent ensuite les légumes qui sont cultivés sur place sous forme de panier. Une partie de la production est également dirigée vers l'association d'aide alimentaire Cœur Résistant. Reportage.
Et donc ça va aller de l'autre côté, là où il y a l'enclos, c'est ça?
Ouais, c'est ça, où il y a l'enclos, au niveau des petits fruits, histoire de qu'on mette pas du plastique, mais qu'on recouvre quand même pour que ça s'enherbe pas trop, quoi.
Donc là, on est sur notre terrain, qui fait 8 hectares. On est juste à l'extérieur de la rocade, dans une zone qui s'appelle la Prévalais, à l'ouest de Rennes. Bonjour, je m'appelle Colin, je suis donc collaborateur à la ferme du Turfu et plus particulièrement membre de la commission communication, même si ça ne m'empêche pas d'aller mettre les mains dans la terre de temps en temps. Voilà.
Pour l'instant, on peut dire ce qu'il y a?
Bien sûr, bien sûr. Donc on a 4 serres, des grandes serres de 70 mètres de long. Donc actuellement, c'est juste une structure métallique tubulaire, hein, assez impressionnante, qui devrait être bâchée incessamment sous peu pour qu'on puisse planter en dessous.
C'est quoi le point de départ au projet de la ferme du Turfu?
Moi, je suis dedans depuis un peu plus de 6 mois. Mais à la base, c'était surtout la réponse à un appel à projet de la ville de Rennes pour une activité maraîchère ici, sur ce terrain. Et puis ensuite, petit à petit, ça s'est constitué avec rechercher des aides, l'installation de la ferme. Et puis, petit à petit, réfléchir à comment on va fonctionner. Voilà.
L'appel à projet, c'était quand?
Il y a 2 ans à peu près.
Qui sont les équipes mobilisées? Vous êtes combien sur ce projet? Et puis ça permet aussi de parler un peu du type de projet que vous développez, à savoir, ouais, un projet collaboratif.
C'est ça, coopératif, ouais. C'est une SCIC, hein, donc c'est vraiment, on est collaborateurs. C'est-à-dire que pour faire partie de la ferme du Turfu, il faut s'engager quelque part, hein, faut signer un papier comme quoi on est collaborateur, prendre des parts sociales qui sont à 10 euros, donc on peut en prendre une ou on peut en prendre plus, même si ça ne change rien après sur le poids dans les prises de décision, mais... Voilà, c'est une petite formalité pour ensuite être collaborateur ou collaboratrice et pouvoir donc à la fois participer aux activités de production, d'organisation, etc. et pouvoir aussi acheter des paniers.
Vous êtes combien pour le moment?
Actuellement, on est une 40aine de collaborateurs et collaboratrices. On a Kevin, on a Nicolas qui est là, on a Laetitia, on a Carmen, voilà, il y a plein de gens. C'est assez chouette parce que c'est assez varié en profil, en âge. À titre personnel, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu quand je suis rentré dans le projet, c'est de voir qu'il y avait une petite hétérogénéité quand même dans les profils. Et on va élargir, en fait, on élargit déjà un peu, hein, mais l'idée, c'est d'arriver, en fait, on cale le maximum de collaborateurs collaboratrices en fonction de la production qu'on vise, c'est-à-dire environ 120 grands paniers, ce qu'on appelle les grands paniers par semaine. C'est un peu comme le système d'une AMAP. On peut prendre des petits ou des grands paniers. Donc, pour qu'à la fois en termes de revenus et que ça corresponde à la production, ça correspondrait, pour avoir l'équilibre financier, à 120 grands paniers par semaine. C'est ce qu'on vise pour dans 4 ans à peu près.
Est-ce que les gens qui, pour le moment, s'engagent sont déjà un peu rodés aux activités que vous allez mener ici, ou est-ce qu'il y a des novices qui s'engagent?
Ah oui, non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir. Hein. C'est très ouvert. Donc, soit on vient pour aiguiser des compétences qu'on a déjà, soit on vient pour apprendre depuis 0-0. On peut aussi s'investir autrement que dans les activités maraîchères, puisqu'il y a des activités de communication, d'aménagement, de gouvernance, bientôt la distribution qui va commencer, donc la logistique. Hein. Donc, tant qu'on s'investit dans le projet, tout le monde est le bienvenu.
Est-ce que vous avez des modèles qui, ailleurs sur le territoire ou même à l'étranger, qui vous permettent d'organiser vos actions? des modèles ou même des ressources, comment est-ce qu'on avance sur un projet comme celui-ci qui est peut-être pas courant?
Non, effectivement, c'est pas courant. Je sais plus si on est les premiers en France, mais en tout cas, on est vraiment pas beaucoup à être sur ce modèle collaboratif. En France, en revanche, on s'est pas mal inspiré d'une ferme près de Freiburg en Allemagne qui s'appelle la Gartenkopp, qui a un fonctionnement assez similaire au nôtre. Ils sont plus gros, hein, je crois qu'ils ont une petite dizaine de salariés, hein, mais c'est voilà, il y a des modèles à l'étranger qui existent déjà et qui nous ont servi d'inspiration. Ouais.
Comment est-ce que vous expliquez plutôt là, ici, dans vos entourages, ce qui vous motive à mener un tel projet?
Alors, c'est assez vaste, hein. La production de nourriture, c'est un peu la base, et c'est l'idée de se regrouper autour de ce sujet de la production de légumes pour ensuite construire un projet citoyen, voire même militant, pour faire avancer les choses en général. Donc, comme l'avantage de ce modèle collaboratif, c'est que on va pouvoir créer ensemble quel impact on veut avoir ici, voilà, dans la région de Rennes, avec notre production de légumes, et puis nos bras, nos jambes, nos têtes, quoi. Voilà.
Vous n'êtes pas seul pour mener le projet, dans le sens où vous êtes en lien avec une association pour continuer sur l'intérêt social du projet, et puis aussi des partenaires institutionnels qui vous soutiennent.
Oui, complètement. Donc, y a vraiment l'idée de la solidarité alimentaire qui était au cœur du projet, c'est-à-dire l'association, c'est principalement Cœur Résistant, qui a déjà une belle assise à Rennes en préparant des repas aux personnes pour qui c'est compliqué. Et donc, voilà, ça c'est vraiment au cœur de notre projet, de pouvoir à la fois produire, mais aussi rendre accessibles nos légumes locaux aux personnes qui ont le plus besoin. Ouais.
Et puis on rappelle donc que c'est la ville de Rennes qui a lancé cet appel à projet, qui donc met le terrain à disposition.
Voilà, on lui loue. Et puis bien sûr, on est en lien avec eux. On va bientôt participer mi-mai à un événement avec eux où on va pouvoir mettre en avant un peu nos activités. Voilà.
Certes, peut-être pas trop à fond.
Ah non, mais là, je suis pas du tout à fond. Là. Je suis
juste pour que le filetage rentre.
C'est la peinture qui est sur les vis qui pose problème. Hein.
Ah ouais.
Vous êtes tous les deux coopérateurs?
Oui. Dans l'aménagement.
Ok. Et ça aménage.
Et donc on aménage. Pour l'instant des cabanes, et demain autre chose peut-être.
On en est où là au mois d'avril? Ça permet de dire ce qui est en train de se passer autour de nous et puisque vous commencez à planter?
Ouais, alors faut savoir que c'est la première année hein, d'activité de la ferme, donc on partait de zéro il y a quelques mois. Il y a les structures de serre qui sont en place. On avait besoin d'espace de stockage sur la ferme qui soit sécurisé, donc on a ces deux cabanes en métal qui sont en train d'être construites sous nos yeux. Et puis sinon on a un enclos à cheval derrière nous là qui accueille des petits arbres fruitiers tout au bout là où on voit la brouette jaune, puis on les voit pas là, mais il y a de l'ail qui a été planté il y a un mois et demi à peu près. C'est le tout début, après il va y avoir plein de choses. Hein.
C'est vraiment... On peut citer ce que vous
avez. Ouais, bah, 24 légumes, hein, j'ai plus la liste en tête, mais c'est parfois plusieurs variétés du même légume, plusieurs variétés de courgettes, de tomates, des pommes de terre, on aura pas mal de plantes aromatiques aussi. Donc les petits fruits, c'est du cassis et des groseilles.
Est-ce qu'il y a des évolutions déjà imaginées à venir sur l'aménagement de l'espace? Est-ce que beaucoup de choses restent à faire?
Ouais, donc là on attend les raccordements à l'eau qui est imminent, il y aura l'électricité bientôt aussi, on aura une dalle béton aussi pour pouvoir avoir un espace en dur qui sera construit bientôt, on espère, pour pouvoir faire du stockage des légumes, quoi. Et puis ben, après, une fois que on va dire, les bases de la production seront en place, on pourra aussi réfléchir à peut-être faire de la transformation. Tout est à imaginer.
Quand on devient coopérateur, on s'engage à s'investir un certain temps sur la vie de la ferme du Turfu?
Alors actuellement, on part plutôt sur la bonne volonté de chacun. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, quand on rentre dans la ferme, c'est de consacrer un peu de temps. On ne veut pas... Aujourd'hui, faire de contrôle, mesurer le temps de présence, etc., on part du principe que chacun se gère et chacun est de bonne foi. C'est dans l'esprit, effectivement, bah, c'est l'idée de rendre service un peu de temps en temps, mais il n'y a pas de temps défini.
Ben moi, c'est Victor, je suis maraîcher pour la ferme du Turfu, avec Martin qui est en train de finir de planter les courgettes. Nous, on met en place une agriculture bio, quoi. Du coup, on s'inscrit plutôt dans le courant de l'agroécologie. On va essayer de plus tirer vers le MSV, le maraîchage sur sol vivant. Donc, c'est des techniques avec très peu de travail du sol. Quand je dis on va essayer de tirer vers là, c'est qu'en fait, pour nous, c'est pas un absolu, que si on a besoin de travailler le sol, on le travaillera. Mais en tout cas, on va essayer de se rapprocher de ça pour essayer au maximum de préserver en fait la vie du sol et le sol en soi aussi, quoi.
Est-ce que d'être en agriculture bio ou maraîchage sur sol vivant, ça implique certaines choses dans les méthodes ?
L'agriculture bio, du coup, c'est un cahier des charges qui fait qu'on doit être regardant vis-à-vis des intrants de la ferme qui viennent au maximum de l'agriculture biologique. En vrai, c'est pas complètement ça, parce qu'aujourd'hui, le système agricole français ne peut pas répondre de toute façon en intrants, surtout en matière organique, qu'avec du bio. Donc là-dessus, il y a quand même des largesses qui peuvent être prises. Du coup, on a accès à un panel de traitements qui sont pas les mêmes que dans le conventionnel. Mais bon, après, s'il y a vraiment des gros problèmes, on a des dérogations pour passer certaines saloperies dans les champs, quoi. Ce que nous, on n'a pas du tout envie de faire, et on va essayer d'en faire le moins possible. Mais bon, après, on est quand même un peu des bébés du maraîchage, donc on verra bien ce qu'il faut faire. Ça implique aussi des rotations de culture, de faire en sorte qu'on n'enchaîne pas, en fait, 5 années de patates au même endroit. Ça, c'est surtout vis-à-vis des ravageurs, donc des nuisibles, que ce soit insectes, et aussi vis-à-vis des maladies. Vis-à-vis du maraîchage sur sol vivant, du coup, c'est surtout une réduction du travail du sol drastique. Ici, on va essayer de travailler le sol que tous les 4 ans. Dans certaines fermes maraîchères, ça peut être travaillé tous les 2 ans. Voilà, c'est des systèmes qui fonctionnent très bien, hein. Les systèmes où on travaille le sol, ça a plein d'avantages et ça a d'autres désavantages, quoi. Nous, ici, ça va être de plutôt préférer une porosité biologique à une porosité qu'on aurait fait mécaniquement. Ça veut dire qu'il faut aussi nourrir cette vie du sol. Et du coup, souvent, dans les cours de MSV, on dit le gîte et le couvert. Et du coup, il faut donner à manger, en fait, à cette vie du sol. Et du coup, ça passe par beaucoup d'apports carbonés. On a la chance d'avoir un grand terrain. Et en fait, ça va nous permettre de faire des grandes rotations, en fait, avec des engrais verts qui viennent s'intercaler entre les cultures légumières. Un engrais vert, c'est quoi ? C'est une plante qu'on fait pousser sur place et qu'on détruit sur place, qu'on ne va pas exporter. Et donc, du coup, en fait, qui va venir nourrir le sol par son activité.
C'était donc la ferme du Turfu que vous venez d'entendre et de découvrir en ligne. Vous pouvez les retrouver sur un site internet dédié. Avant de se quitter, j'ai très peu de temps pour vous faire une recommandation. C'est le prochain mardi de l'égalité. Des rendez-vous que j'ai toujours essayé de vous annoncer. C'est un cycle de rencontres imaginé par la mission Égalité et le service culturel de l'université Rennes 2. Le prochain, c'est donc mardi 8 avril à partir de 18h. Et ça se passe au Tambour à Rennes pour écouter Camille Morin-Delon. Laurière. Elle est doctorante en histoire et en sciences politiques entre Toulouse et Montréal et elle vous éclairera sur une histoire du courant lesbien féministe en France entre 1970 et 1980. L'entrée est libre et gratuite comme toujours et les réservations sont conseillées. On va se quitter avec un morceau de musique. Vous entendez peut-être ma fille qui hurle à côté, il est temps que je m'en aille. Léonie Pernet avec Réparer le monde, c'est un single qui est sorti à l'automne, issu d'un album à venir. Ce sera son 3e disque. Moi, je vais vous dire salut, l'heure est arrivée. Ça me fait un petit peu drôle, peut-être un peu ému aussi. Vous entendez ma voix qui tremble. Je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres espaces radiophoniques et même au-delà. Salut.
Qu'est-ce qui... inconsciemment, je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse pour chaque étoile.